rester maintenant sur,
sur ce thème qui nous a été donc proposé par l'association L'Alliance de l'Espérance, sensibilisation. Alors, quel regard que le nôtre sur ces femmes ou ces hommes qui se trouvent enrôlés de gré ou de force dans cette activité? Quel est notre regard? Alors, même si elle progresse en bien des points, heureusement, la société moderne n'est pas meilleure que l'ancienne ou celle qui est passée, dans le sens où notre société tente toujours, et je dirais de plus en plus, de réduire en esclavage les hommes et les femmes les plus vulnérables. Et cela en les soumettant impitoyablement à quelqu'un ou à quelques organisations. Et quand on parle d'organisation, qu'est-ce que nous devons penser des pays et des États? Alors, dans un périodique spécialisé en économie, voici ce que l'on peut y lire. Donc, je le cite. L'INSEE a tranché. Non, il n'intégrera pas le produit des drogues et de la prostitution dans son évaluation du produit intérieur brut PIB français. Contrairement à ce que lui demande l'Institut européen Eurostat et à ce que d'autres pays font déjà ou s'apprêtent à faire. La prostitution, une richesse produite? Car c'est cela que l'on parle, quand on parle de PIB, de richesse produite dans un pays. Alors on peut se réjouir de cette décision, bien sûr, de l'INSEE. Alors parfois on entend parler du bon vieux temps, en tout cas mes parents parlaient souvent du bon vieux temps. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moins de 900 ans avant Jésus-Christ, l'esclavage était déjà pratiqué en Israël même. Et l'on pouvait ainsi être vendu, ne serait-ce que par exemple pour le remboursement d'une dette. On le voit notamment dans, il y a beaucoup de références et je ne les citerai pas toutes bien sûr, dans 2 Rois 4, qui nous fait découvrir qu'un créancier donc prend les enfants d'une femme en esclave pour se rembourser. Dans le Deutéronome également, on voit qu'on pouvait s'approprier une femme comme un trésor de guerre. Puis des Hébreux, bien sûr, étaient vendus et pratiquaient cette activité de l'esclavage. Notamment, on voit dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, qui nous relate l'histoire de Joseph, ce fils préféré de Jacob, à qui ses frères ont arraché la tunique et qu'ils ont vendu comme esclave aux Ismaélites. Alors l'arrivée du christianisme, notamment dans le Nouveau Testament, a été accompagnée d'un changement, je dirais, progressif, mais quand même important, sur l'opinion de l'esclavage. Et la lettre de Paul à Philémon, qui est courte, met en avant justement cette pensée, où Paul réclame de Philémon qu'il traite Onésime comme un homme libre. Alors, jeudi, Amandine nous a donné, entre autres, quelques chiffres concernant, bien sûr, la prostitution sur la France et sur Lyon en particulier. Je ne vais pas y revenir. Juste quelques chiffres sur le plan mondial, pour aller assez vite. Il semblerait qu'aujourd'hui, dans le monde, sur le plan des adultes, 200 à 300 millions d'adultes sont concernés par l'esclavage, par une situation d'esclavage. Et pour ce qui est des enfants, c'est-à-dire de 5 à 14 ans, il serait environ quelques 300 ou 350 millions qui s'ajoutent aux adultes. Alors bien sûr, les situations sont diverses et variées, mais quand même les chiffres sont très importants. Alors je passe là-dessus, j'en dirai pas plus sur ce qui concerne les chiffres et les lois. Donc quel regard que le nôtre sur l'esclavage. Alors dans Ésaïe 53, un verset, ou plus exactement la partie d'un verset, m'a interpellé il y a quelques années, et bien sûr m'est revenu à l'esprit pour ce qui nous occupe, pour ce sujet qui nous occupe ce matin. Il s'agit du verset 3 d'Ésaïe 53, où on peut lire « Semblable à celui dont on détourne le visage ». Alors, qui est ou qui sont les personnes dont on détourne le visage? Pouvons-nous les nommer? Qui sont-elles? Alors, pour nous aider, il y a la seconde partie du verset qui dit « Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas ». Y a-t-il des personnes dont je ne fais aucun cas? Une personne pour laquelle je n'ai pas ou peu d'intérêt? Pour laquelle même parfois j'éprouve un sentiment de rejet, de dégoût? Alors ces personnes, qui sont-elles? Les voleurs? Les meurtriers? Les violeurs? Les clochards? Les miséreux? Les prostituées? Les souteneurs? Sans doute, leur situation font naître en nous des sentiments multiples, les uns légitimes, d'autres toujours, peut-être pas toujours avouables. Dieu lui-même déclare que tout homme est pécheur et que pas un seul ne fait le bien. Mais sa parole nous apprend également que c'est l'homme, que ce n'est pas l'homme, pardon, qui est haïssable, mais le péché qui est en lui. Alors, l'être humain est naturellement attiré par ce qui est attrayant, que ce soit bon ou mauvais d'ailleurs. Et nous rejetons et nous nous éloignons tout aussi naturellement de ce qui nous gêne, de ce qui nous perturbe ou nous heurte, de ce peut-être que nous estimons impropre à toute proximité ou à toute relation. Nous tournons le dos et nous n'avons pas d'intérêt, ou alors si peu. Je voudrais vous lire un verset dans le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 4 et le premier verset. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Et voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les console. Quelle réaction, ou quel regard que le nôtre sur les prostituées en particulier? Alors malheureusement, de nos jours, et plus encore que le passé, cette pratique est non seulement toujours d'actualité, mais c'est encore plus son organisation qui est dramatique. Malgré les règles, les lois et les conventions internationales, au Brésil par exemple, la prostitution est légale. Alors on est en pleine Coupe du Monde. Et avant le début de la Coupe du Monde, donc, les organisations de prostitution se sont préparées à l'arrivée de touristes. Elles ont estimé qu'elles pouvaient s'attendre à une hausse de 30%, plus 30% de leur activité. Je cite, « Au Brésil, tout le monde va se remplir les poches pendant le mondial, alors nous aussi, quel est le problème ?» explique à RTL la présidente d'un syndicat de prostituées à Belo Horizonte. Je cite toujours, « Pour aider nos clients, nous prenons la carte bancaire. Ils pourront payer en 3 fois sans frais », explique également une présidente d'association de prostituées. Alors bien sûr, la plus grande partie de ces femmes ne pratiquent pas la prostitution par choix, c'est sûr. Car les richesses au Brésil sont loin d'être largement partagées. Le taux de pauvreté est important. Et c'est ainsi que le piège de la prostitution se referme sur des hommes et des femmes qui sont devenus les objets les esclaves d'organisations les plus puissantes. Dans la Bible, il nous est fait état d'une prostitution sacrée à une certaine époque et qui se pratiquait dans les sanctuaires de Baal, nous relate la parole de l'Ancien Testament. Et dans ce cadre, les relations, nous est-il dit, sexuelles étaient un rituel pour assurer la fertilité de la terre et la fécondité des élevages et des personnes. Dans 1 Roi 14, par exemple, il nous dit qu'il y eut même dans le pays des hommes et des femmes qui se livraient à la prostitution. Et en plus, bien sûr, d'être esclave à la prostitution en tant que pratique, en tant qu'organisation, le chrétien, les chrétiens que nous sommes, savent bien que ces esclaves sont également, surtout, les esclaves du souteneur par excellence, Satan. Alors, quelles attitudes doivent être celles des églises envers les personnes prostituées face à ce fléau? Le salut de Dieu est un salut pour tous. C'est aimer le sens de la prière de Pierre. Proposé à tous, offert à tous, nous a été rappelé dimanche dernier, en tout cas à Tinranch, dans nos thèmes, le verset de 1 Timothée 2,4, qui nous dit que Dieu veut que tous les hommes, sentant le genre bien sûr, et les femmes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La compassion de Dieu est une compassion pour les malheureux, pour les opprimés, pour celles et ceux qui sont enchaînés. Dans notre texte, dans la parole au psaume 113, on peut lire dans les versets 7 et 8, « De la poussière, Dieu fait lever le misérable. Du dessus, le fumier, il élève le pauvre pour les faire asseoir avec les nobles de son peuple. » Ainsi, le chrétien, les chrétiens que nous sommes, ainsi le chrétien est encouragé à ne pas avoir d'attitude méprisante ou de désintérêt pour qui que ce soit, mais à être co-ouvrier avec Dieu. Et nous nous réjouissons de vous voir co-ouvrière avec Dieu sur ce thème. Oui, on se réjouit de voir des personnes qui sont réunies en association, qui ont à cœur ces personnes qui sont enfermées dans l'esclavage, de leur donner, comme ça nous a été rappelé, une possibilité d'écoute, de compréhension, de partage, d'aide pratique et de soutien. Aux prostituées elles-mêmes, Dieu offre cette possibilité de salut, de pardon et d'accueil. C'est dans la Bible. Matthieu 21, les versets 31 et 32, Jésus dit aux sacrificateurs et notables du peuple, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Ah, il explique pourquoi. « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. » Alors, et que dire de Rahab? On aurait pu mettre comme titre « De la prostitution au panthéon de la foi ». Mais comment est-ce possible, me direz-vous? Comment est-ce possible? Comment peut-on passer du plus bas niveau moral, voire social, qui soit à celui de héros de la foi? Comment Dieu peut-il inclure une prostituée parmi les sauvés? Est-ce que cela nous gêne? Est-ce que cela nous met mal à l'aise? On peut aisément comprendre que notre raisonnement humain peut être interpellé par ce verset d'Hébreux. Et pourtant la Bible nous affirme cette réalité. Au chapitre 11 donc de ce livre des Hébreux, l'auteur rend hommage aux héros de la foi de l'épopée biblique. Élevé, nous pourrions le dire, au panthéon de la foi. Ces personnes constituent, nous est-il dit, une nuée de témoins dont le courage, la persévérance, la foi nous sont laissés en exemple. Et Rahab, la prostituée, fait partie des personnes citées en exemple.
Au verset 31, donc, de ce même livre, nous disons, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Mais au contraire, selon l'épître de Jacques, au chapitre 2, au verset 25, 25 version Semeur, parlant de Rahab, elle a été déclarée juste par Dieu. Il nous apparaît clairement que l'Église du Seigneur doit être une Église accueillante pour tous et d'être capable d'ouvrir ses portes, à commencer par les portes de son cœur pour accueillir les plus démunis, les outragés, ceux qui sont réduits en esclavage, etc. Nous devons reconnaître qu'à nos yeux humains, certains actes, certaines occupations sont difficilement pardonnables. Qu'il nous semble, par exemple, que de ne pas avoir pratiqué la prostitution, c'est à nos yeux avoir moins péché. Et c'est sans doute aussi le sentiment des prostituées elles-mêmes qui sont, du coup, qui se sentent moins à l'aise ou pas à l'aise, pas libres, pas confiantes dans des lieux où elles devraient s'attendre à trouver du réconfort. Alors nous ne sommes pas tous qualifiés dans tous les domaines, pour toutes les missions, et ça vaut aussi pour moi. Dieu donne à chacun, nous le savons bien, des qualités et des prédispositions particulières, spécifiques et personnelles. Mais Dieu donne aussi des dons généraux, c'est-à-dire identiques à tous. Et parmi ceux-là, on peut trouver, nous sommes qualifiés par Dieu pour comprendre le besoin de salut de telle personne, le besoin d'écoute, le besoin de réconfort, et le besoin d'aide. Pour ça, pour comprendre ça, Dieu nous a qualifié nos cœurs pour ça. Il me semble que nous pouvons comprendre donc les objectifs donc de cette association de l'Alliance de l'Espérance. Certes, celui qui nous a été dit de venir en aide aux prostituées, de leur présenter la grâce de Dieu en Jésus, mais aussi de celui de trouver au sein des églises du Seigneur, c'est-à-dire au sein des églises locales, soutien, prière et, si possible, une aide pratique d'une manière ou d'une autre. Et je crois que la présentation était claire sur ce sujet. La Bible nous dit dans Luc 7 qu'entre dans la maison une femme pécheresse qui vient pleurer aux pieds du Seigneur et répandre sur lui un parfum. Que fait le pharisien ? Imbu de lui-même, persuadé qu'il vaut mieux que cette femme la méprise dans son cœur. Non seulement il la méprise à elle, mais il méprise aussi le maître, disant « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, et il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Comme si le Seigneur ne savait pas. Le pharisien avait réduit l'identité de cette femme à ce qu'elle était, et le texte dit de quelle espèce elle était. Et ça me renvoie à mon verset d'Ésaïe 53, celle dont on détourne le visage, pour laquelle on ne doit pas avoir d'intérêt. Les pharisiens portèrent le même jugement sur la femme surprise en flagrant délit d'adultère et d'engeance, estimant qu'elle n'était pas digne de vivre. Jésus a tiré à lui les pécheurs, il a tiré à lui les gens de mauvaise vie, car loin de les fustiger, ou de les repousser, ou de les condamner, il savait que par un seul regard d'amour, il pouvait les amener à la repentance. Et vous êtes quelque part parmi ces jeunes femmes ou ces jeunes filles, ce regard d'amour de Dieu, que ça puisse être le nôtre aussi. Plus le péché est horrible et malpropre, plus le sang est efficace. C'est pas moi qui le dis. La parole nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, c'est dans Romains. Et aussi que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il serait donc absurde de croire que mes petits péchés ont moins offensé Dieu. Tous les hommes sans distinction sont sous la même condamnation, afin qu'en Jésus, tous puissent bénéficier de sa grâce, de la même grâce. Alors il est vrai que s'élèvent là et là, ça et là, donc de bonne volonté, des personnes émues, scandalisées, par tant de souffrance et d'indifférence, des personnes qui se lèvent et qui œuvrent, soit de manière personnelle, soit au sein d'associations. C'est le cas, entre autres, de Philippe de Courroux, dont on a vu le film jeudi, hein, ou de nos sœurs dans leur association. Et nous ne pouvons que nous réjouir de cela, de ces initiatives, alors même que ce fleuve de misère et de corruption ne cesse de s'élargir, ne cesse de gonfler de plus en plus. Sans doute, sans aucun doute, l'Église du Seigneur a un rôle à tenir. Alors Nasser nous a parlé dans son introduction ce matin de Josué, de l'invitation par Dieu à traverser le Jourdain, à aller de l'avant, à ne pas se décourager, un encouragement à se lever. Et juste le chapitre d'après, c'est celui qui nous entretient de Rahab, la prostituée. Quelle grâce que celle de Dieu! Elle montre que ce pays de la promesse, en fait, est ouvert à tous et à toutes. Même à celles et ceux dont on pense qu'ils n'en sont pas dignes. Les deux espions de la situation qui se sont rendus dans la maison de Rahab n'ont pas eu besoin d'aller vérifier par eux-mêmes. On voit au verset 9 qu'ils ont fait confiance et qu'ils ont eu foi dans les dires de Rahab. Et ainsi, la maison de Rahab, du coup, rendez-vous compte, est une image de la maison de la foi. Hein? Les espions qui prêtent foi aux propos de Rahab et la foi de Rahab envers Dieu, qui dit « L'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, en haut et en bas, sur la terre. » Alors pour ces 5 jeunes filles, ou jeunes femmes, ou les autres, Mélanie, Amandine, ce que nous souhaitons, c'est qu'un jour elle puisse vous dire « L'Éternel, votre Dieu, est un Dieu dans les cieux, en haut et en bas, sur la terre. » Alors Rahab, quand on fait un petit peu la lecture de ce passage en Josué, avait à cœur, on le voit, avait à cœur tous les membres de sa famille et désirait qu'ils entrent dans la maison pour être sauvés, du coup. Alors que nous puissions avoir également à cœur le salut et le bien spirituel et aussi matériel de ceux que Dieu nous a confiés dans nos maisons, mais aussi de celles et ceux que Dieu nous met sur notre route, en ne voyant en eux que des âmes que Dieu veut sauver. Amen. Merci François. Quel regard je vais avoir en sortant de notre église. Que nous puissions avoir ce regard de Jésus, ce regard qui nous donne cet exemple parfait, qui ne condamne pas, qui accueille et qui est plein d'amour. Que nous puissions partir avec ce regard et que nous puissions être encouragés avec ce regard-là, ce regard de salut et de grâce. Je vais juste conclure le culte, en fait. En concluant le culte, en fait, je vais vous inviter à nous lever et à chanter un cantique, un chant, qui est « Nous croyons ».